CFM Villefranche, le mag.
Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Le mag, oui, édition de ce mercredi 5 janvier avec en studio Guy Pezet, co-président de l'association Rencontre à la campagne. On va parler des films à l'affiche à la salle de cinéma et plus encore, puisque ce que nous attendons tous en ce début d'année, c'est le top 10 des films, d'ailleurs repris par les cahiers du cinéma. Hein, votre sélection, Guy Pezet, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, bon anniversaire, bonne année.
Enfin, ah,
vous
merci. Merci,
hein, bon, en quelques
bonjour
jours.
Et bon, bonne année aussi à tous les auditeurs, à toutes les auditrices, tous les auditeurs.
Pink Martini, c'est la musique que vous avez sélectionnée avec le morceau sympathique, bien connu,
oui.
Je ne veux pas travailler. Et puis on a les Woo également programmés oui. Pour illustrer peut-être les récentes bougies soufflées.
Voilà.
Guy, par quoi on commence
un petit mot justement pour dire que, comme le temps depuis une dizaine de jours, j'étais d'humeur printanière. J'espère bien que ça va continuer, même si le temps change un petit peu. Et si on nous annonce un retour vers l'hiver, qui semble effectivement se confirmer. Mais cette humeur printanière m'a permis peut-être de un peu mieux supporter la morosité de ces temps. Et ce que je souhaite pour tout le monde, c'est que quand même, c'est qu'on en sorte. Quoi. Mais je crois que vraiment, on a tous besoin d'en sortir, plus ou moins parce que ça commence à être lourd et ça fait longtemps. Il faut garder quand même, je crois, cette démarche de réflexion collective, ne pas, pas s'enfermer dans ses seuls principes, dans ses seuls, peut-être, oui, de ne pas garder comme seule mesure sa propre mesure individuelle, mais penser collectivement pour essayer de s'en sortir par le haut. Voilà, ce qu'on peut souhaiter, je crois, quand même.
Eh bien, on prendra ces quelques mots comme votre billet d'humeur. Et
voilà.
Une fin d'année à la salle de cinéma de Rieux-Pérou, un peu de fréquentation.
Il y a eu, je crois, un peu plus de fréquentation à nouveau, oui. Bon, après, il s'est mis à faire beau aussi, ce qui a peut-être empêché quelques personnes d'avoir envie d'aller au cinéma l'après-midi, mais il y avait un peu plus de monde le soir, donc il y a de bons films, il y a de bons films aussi début janvier. Ensuite, on ne sait pas trop, puisque avec les incertitudes liées à la crise sanitaire, on voit déjà à nouveau que des sorties attendues, en tout cas de films a priori populaires et pouvant faire de gros scores, sont plus ou moins retardées. Donc voilà, on ne sait pas trop comment ça va aller.
Le top 10, un peu de musique ou le top 10
Peut-être un peu de musique.
Allez, hein. Les Woo?
Non. Sympathique.
Pink Martini, pourquoi ce choix, Guy, vous qui êtes à la retraite?
Parce que voilà, c'est à la retraite, j'ai l'impression de trop travailler des fois, j'aimerais ne pas travailler parfois, et je la trouve finalement sympathique cette chanson, comme son titre, ou même finalement assez positive.
Ma chambre à la pomme d'une cage, le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas magnifique, être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Thank you. je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fus.
Pink, Martini Sympathique, show musical de Guy Pezet, invité de cette édition du magazine d'actualité. Première rencontre de ce début d'année pour parler des films à l'affiche à la salle de cinéma de Rieux-Pérou, mais pas que. Le top 10 également. Les films qui vous ont marqué, Guy, et que vous nous recommandez, des films à absolument avoir dans sa DVD tech.
Si, il y en a quand même. Ouais. C'est plutôt une bonne année finalement. Et elle a commencé quand même, je rappelle, qu'au mois de mai. Fin mai, début juin. Voilà, donc moi, dans mon palmarès, si on peut dire, enfin voilà, pour pas dire top 10, mais mon palmarès, c'est en premier, donc First Go de Kelly Richard, un film américain.
Ah, vous commencez pas par la fin pour ménager un peu le suspense.
Non. First Go, il y a quatre films qui se détachaient quand même nettement. First Go de Kelly Richard, vraiment un film étonnant, une sorte de western avant le western, mais un western doux, tranquille, serein. Même s'il posait déjà tous les problèmes à venir, ou déjà un petit peu présents de violence autour de la propriété, à qui appartient cette vache, à qui appartiennent ces terres, qu'est-ce qu'on peut faire, comment va s'organiser le commerce entre tous ces pionniers. Et c'est un film vraiment remarquable. Elle avait déjà fait, Kelly Richard, des films remarquables, La Dernière Piste en particulier, qui était un vrai western, mais lent aussi. Et puis surtout Certaines Femmes, qui avaient fait partie de mon top des trois premiers des années 2016-2007. En deux, Drive My Car, film japonais de Hamaguchi, Yuruzuke Hamaguchi, vraiment la redécouverte des deux ou trois dernières années. Alors, on est content parce qu'il est au scénario des Amants Sacrifiés que j'ai vu dimanche soir, qui était très très beau aussi, peut-être dans le top 10 de l'an prochain. Il est, je crois qu'aux Trois Continents à Nantes, on a découvert deux nouveaux films. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment nouveaux ou est-ce qu'ils sortent avec du retard? Parce que maintenant, sa filmographie va se dérouler apparemment en accéléré. Mais ça fait plaisir parce que Drive My Car, c'est un film très riche, complexe, complètement contemporain. Par contre, là, c'est vraiment une réflexion sur à la fois le couple, la culpabilité, l'art, puisque le héros est metteur en scène de théâtre, parce que sa femme travaille aussi dans l'art aussi. Et donc, c'est vraiment une œuvre complexe, intéressante, qu'il faut voir et revoir, même si elle dure 3 heures, ce qui va être plus difficile pour voir et revoir. 3 heures à la télévision, des fois, c'est difficile. Mais c'est pour ça qu'il fallait le voir en salle. Encore près de 3 heures aussi pour le troisième et premier film français, donc Onoda, 10 000 lieues dans la jungle d'Arthur Harari, un film qui m'a beaucoup marqué, j'en avais parlé, j'ai vu début août je crois, dans la salle. Onoda, donc, c'est l'histoire d'un soldat japonais qui refuse de croire à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui reste sur son île à se préparer au combat contre les Américains ou on ne sait pas trop contre qui après, puisqu'il va y rester jusqu'aux années 60. On pourrait être enfermé dans son délire, mais le film a une mise en scène très très inventive finalement qui permet de passer tout ce temps et de prendre de la distance par rapport au personnage. De nous installer aussi dans une sorte de proximité, mais pas de proximité de sa folie, son délire un petit peu fake news, on pourrait dire, hein, mais complètement au contraire dans sa proximité humaine avec celle de ses camarades qu'il entraîne dans son aventure et qui sont de moins en moins nombreux au fil des ans. Mais c'est vraiment un film étrange. Arthur Harari, c'est un réalisateur vraiment à suivre. Il a fait Diamant Noir comme premier film, c'était remarquable. Et c'était complètement différent puisque c'était un thriller. Et là vraiment, c'est un film d'une ambition, je trouve, vraiment, et d'une fluidité en même temps étonnante. Voilà,
Onoda.
Top 3, Onoda. Et en 4, Memoria de Pichatpong Hasatekul, film thaïlandais que j'ai vu récemment. Donc, j'en avais parlé, Memoria, parce que c'est un autre cinéma, c'est penser le cinéma complètement comme quelque chose qui ne peut sortir de tout, qui ne s'enferme pas dans un genre, qui ne s'enferme pas dans un rythme et qui ne s'enferme pas non plus dans l'idée qu'il faudrait qu'un scénario propose je ne sais pas combien de rebondissements pour être intéressant. Donc ce qu'ils suivent et ce qu'ils recherchent, c'est un son, c'est l'origine d'un son. Donc déjà, c'est un travail très technique et qui est un travail qui se fait aussi effectivement dans les salles de cinéma, enfin dans les salles de tournage. Hein, le travail sur les sons est considérable. Bon, c'est mis en avant par le film et c'est en même temps un travail sur la mémoire, comme son titre, la mémoire presque politique hein, des civilisations. Et comme il est tourné en Colombie, ça remonte donc jusqu'aux civilisations les plus anciennes. Après, il y a toujours un côté fantastique dans ce film qui est un peu la marque de Wirasate Kul, c'est-à-dire du fantastique qui peut venir de l'animisme, donc d'autres philosophies que les philosophies occidentales et d'autres religions que les religions du livre et leur côté cartésien, même si pas exactement le mot qui convient, mais c'est quand même loin de ces philosophies-là. C'est plutôt proche de Lucrèce, tout est sensible, la nature est sensible, ou le pré-platonicien. Et il faut rentrer dans cette espèce de manière de voir le monde.
Memoria, en quatrième position. C'est
France,
le palmarès
de Bruno Dumont, là, pas quatrième ou cinquième, France de Bruno Dumont. Là, tout le monde attend que j'aime bien du Bruno Dumont, c'est vrai.
Ah oui.
Mais là aussi, alors qu'il a fait complètement différent, quelqu'un qui passe de Jeanne, alors une forme de drame historique à sa façon, à France, qui est sur la télévision actuelle, avec une héroïne, donc journaliste télé, vraiment épatante, et qui est Léa Seydoux. Et c'est vraiment un travail sur le personnage qui semble même, durant le film, tellement ouais, Léa Seydoux le porte bien, évoluer de façon à prendre conscience de ce qu'elle est dans ce système médiatique où elle est constamment au feu de l'actualité, mais au fond où elle ne sait plus trop ce qu'elle est. Et c'est vraiment un film remarquable, avec toujours à la musique Christophe, ben, c'était sa dernière collaboration, et c'était le seul point que je vois en commun avec Jeanne. Et puis peut-être la force de ses héroïnes aussi en général. Voilà, dans France du monde, donc satire, on pourrait dire. Hein, chronique, c'est pas que des drames hein, cette année, c'est vraiment des films traités différents tous, qui échappent un peu aux classifications. Sixième, à l'abordage de Guillaume Braque, qu'on avait vu l'année d'avant, nous en avant-première. Film qui est ressorti, donc que j'ai revu avec le même plaisir. Guillaume Braque confirme que dans la comédie, on peut faire des comédies de vacances, des films d'été, qui soient riches et pas du tout plombants, et assez drôles, avec des héros qui ne sont pas des grands acteurs connus, mais là c'était des stagiaires aussi essentiellement qu'il avait par rapport à un projet qui se déroulait je ne sais plus où. Il avait déjà fait ça avec L'île au trésor sur le lac de Sergi Pontoise, et ce qui s'y passait l'été. Et puis on avait vu aussi, dans le cinéma Rieu Pérou, les premiers films de Guillaume Braque, quand il a lancé un peu Vincent Macaigne, avec Monde sans femme, je crois que ça s'appelait, je ne sais plus exactement comment ça s'appelait, mais c'était lui qui a révélé un peu Macaigne comme amoureux malheureux. Mmh. Et souvent, dans ces films-là, c'est des comédies d'été, mais c'est vrai que les hommes ont un certain mal à exprimer leurs sentiments ou à aller jusqu'au bout de leur passion amoureuse. Pour diverses raisons, il peut y avoir de la résistance chez les dames choisies à l'abordage. C'est tout un programme, avec une vision tout à fait intéressante de la banlieue, de gens qui viennent de banlieue et qui se retrouvent en Ardèche aussi. C'est intéressant. Après, en 7, Le genou d'Aed de Nadav Lapid. Genou d'Aed, c'est le film israélien qui nous a le plus secoué pendant le festival, puisqu'il y a au moins une séquence assez longue de 10 minutes, un quart d'heure, où il éructe un petit peu tout ce qu'il peut penser de mal d'Israël. Alors je dis il parce que le personnage semble très près du réalisateur. Plus on avance dans sa filmographie, plus il s'en rapproche. Et qu'il n'y a pas beaucoup de... On comprend bien que c'est quelqu'un qui va faire un film et qui en a après le système de censure dans son pays, après les commissions culturelles, même s'il aime bien la jeune femme qui est là pour observer son travail. Donc c'est un film vraiment un peu coup de poing quand même, avec emporté, qui ne respecte pas les codes courants de la narration, mais marque profondément. Voilà. Puis 8, en 8, La fièvre de Petrov, de Srebrennikov, le russe, j'en avais parlé il y a peu.
Ah oui?
Oui, c'est tout un vrai film vraiment que j'aime beaucoup, parce que pareillement, c'est quelqu'un qui cherche avec la mise en scène des réponses quoi, aux impasses dans lesquelles il est son personnage, puisqu'on est, on pourrait être enfermé dans la tête du personnage, puisqu'il a la fièvre, il a bu, enfin il boit constamment. Mais le film tout en restant dans une sorte de tunnel comme ça, ouvre plein de portes et de sas, je sais pas, où il se révèle de façon différente, le héros se révèle de façon différente et où on voit d'autres personnages. Je dirais pas qu'ils sont tous très clean, ils sont tous assez imbibés, mais ils sont philosophes quand même. Il y a une portée politique, philosophique, enfin étonnante, puisqu'à la fin, le mort ressuscite même et sort du cercueil dans lequel on le trimbalait dans la ville, et marche tout content dans la rue, et a l'air de vouloir décider d'en profiter, en faisant un drôle de film jusqu'au bout. Mais ça, c'est de la mise en scène quand même, c'est un travail de cinéaste, bon, par rapport à plein de trucs de son passé, du passé de tous les Russes, apparemment, à l'époque soviétique et tout ça.
En 8e position.
Oui, alors 9e, compartiment numéro 6 de Juho Kuzmonen, c'est un film finlandais qui était primé à Cannes, je crois, Grand Prix ex aequo avec un film dont on parlera tout à l'heure. Et Juho Kuzmonen, c'est son second film qu'on projetait à Rio Pérou. Le premier, je ne me rappelle plus le titre, c'était sur un boxeur finlandais, le premier boxeur finlandais à atteindre un niveau championnat du monde et qui, au dernier moment, par rapport à un problème amoureux avec sa compagne, ne voulait plus aller faire ce combat. C'était assez intéressant. Compartiment numéro 6, c'est presque une romance, un sens, enfin, un film romanesque, puisque c'est une rencontre de personnes qui ne se ressemblent pas dans un train et qui s'approchent, mais qui vont pas, enfin, ça ne va pas être nécessairement une rencontre amoureuse concluante, mais après, c'est quand même un moment extrêmement intéressant, avec une culture aussi différente, peut-être que l'on découvre, c'est le Grand Nord souvent, ils vont de Moscou vers la Sibérie, et c'est le film d'un Finlandais quand même, donc c'est vraiment déjà un peu la même région. Et puis, dans 10, j'ai mis Cher camarade de Konchalovsky, encore un film russe, finalement, cette année. Alors lui, c'est un vieux cinéaste, plus de 80 ans, donc plus vieux que moi, donc c'est vieux. Non, mais qui est très connu, Andrei Konchalovsky, qui là a fait un film sur un scandale, enfin un scandale, un scandale complet, c'est-à-dire l'écrasement d'une grève. Et surtout comment on a occulté cette tragédie, puisqu'il y a eu quand même plus de 80 morts sans doute, ça c'est les chiffres qui ont été révélés 20 ou 30 ans après sous Eltsine, quand l'affaire est ressortie. Mais là ça montre très bien comment on peut, dans une dictature, effacer des traces même, ils mettent de l'asphalte nouvelle dans la nuit, des camions de ciment, parce que les traces de sang n'arrivaient pas à bien partir. Avec de l'eau, par exemple, entre autres choses. Hein, je ne parle pas non plus des corps enterrés, enfin des brûlés, enfin d'autres choses.
First Co, c'est ce qu'on peut retenir de ce palmarès 2021. Drive My Car, Onoda, Memoria, France, de Bruno Dumont pour les 5
films français quand même. Trois films français parce que c'est une grande année pour le cinéma français. Il y avait plein de films intéressants qui étaient très proches de ce niveau-là. Plein de premiers films intéressants. Je pense au Magnétique, à Une histoire d'amour et de désir, par exemple. Gagarine, enfin, plein de premiers films intéressants. Ça, c'est encourageant. Et puis, aussi, des gens qui ont confirmé, les frères Tralala, des frères Larieux, ça m'a fait rire, avec Bertrand Belin, c'était intéressant. Je ne sais plus, d'autres...
Voilà, sur 8 mois en tout cas de projection, aussi faut le dire et le rappeler. Et ben voilà, le palmarès 2021 des films à voir que vous nous recommandez, pour toutes les raisons que vous avez évoquées. Je vois le chrono qui file, je me demande si on va avoir l'occasion de parler, on va pouvoir le faire, mais très rapidement. Il nous reste 5 petites minutes pour parler des films à l'affiche, et ça commence ce soir avec un héros.
Oui. Asghar Farhadi, alors lui il est toujours primé maintenant, il a eu le Grand Prix à Cannes. C'est surtout, comme d'habitude, je crois, un film de scénario. Mais cette fois, Farhadi, qui avait tourné en Espagne un dernier film assez mauvais là, avec Penélope Cruz et Bardem, revient en Iran avec ses histoires, avec des enjeux moraux assez complexes, mais des scénarios brillants et qui prennent au piège un peu le spectateur et aussi le personnage. À mon avis, trop. Mais bon, c'est vraiment attendu, ça, un héros.
Projection unique ce soir à 21h en version originale. Un héros, Cher Léa également.
Cher Léa, voilà une comédie de Jérôme Bonnel dont je n'ai pas vu d'autres films, mais une comédie avec Anaïs de Moustier. On a du mal à l'éviter actuellement, hein, comme Virginie Efira, Léa Seydoux, Anaïs de Moustier. On voit que c'est le tiercé gagnant.
Hein. Bankable.
Et voilà, avec aussi ce Grégory Montel qui vient de 10%. et qui devient un acteur aussi de plus en plus recherché. Bon, c'est une comédie un peu dramatique, décalée, une rupture amoureuse et un type qui veut revoir celle avec qui il a rompu, la fameuse Léa, et qui lui écrit une lettre sous le regard d'un aubergiste, enfin d'un cafetier, voilà, d'un patron de café tout à fait intéressant, joué par Grégory Gadebois.
Bad Luck Banging or Lonely Porn.
Oui,
ça donne très envie.
Oui, ça donne très envie. Il faut, pour la traduction, non, je le laisse de côté, mais enfin, c'est un film qui a eu l'Ourdeur d'or à Berlin cette année. Ça, c'est remarquable, quand même, un film roumain. Il fait partie de la jeune vague, la nouvelle vague roumaine. Il a toujours fait des films assez complexes. Là, c'est un film plus délirant, mais un film vraiment décapant sur une enseignante, Amy, qui se fait piéger dans une histoire de sextape et qui voit, doit après se justifier, donc, parce qu'en fait, une sextape tournée avec son mari, mais enfin, qui, ce n'est pas eux qui l'ont mis sur les réseaux et elle doit après se justifier devant un tribunal et le tribunal est, d'après le réalisateur, encore plus obscène bien sûr et totalement obscène alors que ce qu'il y avait dans la sextape ne l'était peut-être pas autant. Et donc c'est vraiment une réflexion sur toute l'obscénité des sociétés occidentales, tout ce qu'on accepte dans le capitalisme sauvage comme il est actuellement et que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux bien sûr avec des délires complets je crois par moment, mais film qui paraît-il a marqué le jury quand même.
Projection unique de ce film mercredi prochain à 21h et en version originale. Et vous nous recommandez également pour le 15 janvier Tromperie avec Léa Seydoux. Vous nous en avez parlé,
Bankable. Léa Seydoux paraît-il encore plus forte dans ce film-là. Alors là, c'est Desplechin. Desplechin, c'est un grand réalisateur, bien sûr, pour moi. Hein. Bon, voilà. Peut-être pas mal d'auditeurs le savent, de nom, maintenant on l'entend, Arnaud Desplechin. Et c'est un grand directeur d'acteurs, d'ailleurs pour Roche Dizem, il a eu le César pour son rôle dans Roubaix une lumière, dernier film qui nous avait beaucoup plu de Desplechin. Donc voilà, alors à nouveau autre chose, puisqu'il adapte Philip Roth, un roman qui s'appelait Deception, et que là on l'a appelé Tromperie. Ça se passe dans un appartement en gros, mais on lui fait confiance lui pour trouver des solutions de mise en scène à ce genre de conversation de conflit ou comme il y en a dans les livres de Ross et parfois dans les films d'ailleurs de Desplechin.
Avec Denis Podalydès et Anouk Grimbert, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu sonner Grimbert, oui. Anouk Grimbert, ce nom. Voilà, films à l'affiche sont à retrouver avec d'autres hein, sur le site de l'association Rencontre à la campagne. La musique, pour terminer.
My Generation, les Who.
Les Who.
Voilà, ben, les Who, il faut admettre. Hein, voilà. C'est les années 60.
Ça sera légèrement coupé pour enchaîner avec la suite du programme, mais on en aura un petit bout tout de même.
Petit bout des... voilà.
Merci Guy, on se donne rendez-vous le mois prochain et très bientôt pour d'autres raisons dans ces studios.
Voilà.
Merci beaucoup.
Au revoir. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Take my generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Try to put us to death.
cause we get around. Forget all.
Yeah.